Mais vous savez qu'Yvette est la reine de l'accordéon et du pop-corn.
Popcorn, popcorn, déjeuner.
Drink that you don't pour. Now when you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a wheel. Boom! Atomic cocktail. Falls a splice all around the place. When you see it coming, just grab your suitcase. It'll send you through the skies like airmail. Boom! Atomic cocktail. You push a button, turn the dial. Your work is done for miles and miles. When it hits, it's bound to shake, because you feel just like an earthquake. That's the drink that you don't pour. When you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a whale. Boom, atomic cocktail. Button, turn the dial. Your work is done for miles and miles. When it hits, bound to shake, because it feels like an earthquake. That's the drink that you don't pour. Now when you take one sip, you won't need any more. If you're small as a beetle or big as a whale, atomic cocktail.
Nous venons d'écouter le Slim Gaillard Quartet avec un tube de l'année 1945, Atomic Cocktail. Alors, comment vous expliquer ? Vous avez peut-être cliqué sur cette émission en vous demandant où était l'épisode 10. Eh bien, l'épisode 10, il est à la poubelle, il est dans les limbes, il est... je l'ai détruit avec une bombe nucléaire. Tout ça pourquoi ? Parce que l'épisode, aussi sympa soit-il, en fait, il était proprement inécoutable. Il y a eu un petit souci technique à l'enregistrement. Je sais que c'est pas la première fois qu'il y a un petit souci technique dans Calvin Ball, mais j'ai une installation sonore un peu précaire. Donc l'épisode 10, bah, il va être réenregistré sous forme d'un épisode spécial un peu plus tard. En attendant, je n'avais pas envie de rester sur un échec, et je me suis dit je vais enchaîner tout de suite avec l'épisode 11. Alors, il s'avère que dans l'épisode 10, à la fin, on a fait un tirage au sort avec Cachou, Noodle, Framboise et Joël, donc des habitués de l'émission. On a fait le tirage au sort des prochaines émissions et que l'émission 11 en fait devait être une émission monothématique, donc juste une émission musicale, où je vous parlais encore une fois de musique de la fin du monde, hein, des chansons du Conelrad, hein, comme on dit, puisque c'était la Conelrad étant bien entendu la radio d'urgence utilisée au temps de la guerre froide en cas d'attaque nucléaire aux États-Unis. Donc pensez bande-son de Fallout, pensez aux chansons de fin du monde. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même la faire cette émission 11. Cette émission donc, où je vais vous parler un petit peu d'apocalypse nucléaire, puisqu'on n'en a jamais été aussi proche. Je ne pensais pas dire ça un jour au 21e siècle, en 2017, mais enfin bon, il y a quand même plus de chances aujourd'hui qu'il y ait une guerre nucléaire qu'en 1964. C'est un petit peu inquiétant. Mais du coup, j'ai décidé de vous créer une petite playlist, pour la fin du monde. Du coup, ouais, plus particulièrement pour la fin du monde causée par des champignons atomiques. Qui est un thème qui a beaucoup inspiré les musiciens dans l'histoire de la musique à partir, bah, à partir des années 40, hein, particulièrement, puisqu'avant, la bombe atomique, c'était un concept un peu flou. À la fin de cette émission, du coup, je vous proposerai de refaire un tirage au sort du coup des émissions 12 et 13. Alors, je ne procède pas comme ça habituellement. Mais honnêtement, le fichier étant totalement inécoutable, je ne sais plus exactement ce qui est tombé. J'ai peur de mélanger les pinceaux. Donc, désolé pour ceux qui ont participé au tirage au sort de l'émission. Là, je vais refaire du coup deux tirages. Mais je peux d'ores et déjà annoncer que prochainement, il y aura une émission spéciale, puisqu'il y a aussi une des 5 saveurs qui est tombée. J'en avais parlé dans l'émission sur le Calypso. Donc je vais, avec un invité, évoquer des choses salées, c'est-à-dire des choses qui ne nous plaisent pas. On va rager pendant une ou deux heures en se passant de la musique énervante, et voilà, ce sera formidable. Ce qui fait que malgré l'apocalypse technique, Calvin Ball ne s'interrompt pas. Donc aujourd'hui, comme je le disais, une longue playlist de chansons sur la guerre atomique, ou sur simplement les accidents nucléaires en général. Et nous allons poursuivre du coup cette découverte avec un groupe qui s'appelle... Je ne suis pas germanophone, hein. Geier Sturzflug, qui est un groupe de New Deutsche Welle, donc la nouvelle chanson allemande. C'était comme ça qu'on désignait un petit peu la scène post-punk underground dans les années 80 en Allemagne, avec une chanson assez rigolote a priori, mais encore une fois je ne parle pas allemand, qui s'appelle Besuchen Sie Europa, qui raconte à la manière un petit peu du schlager allemand et des chansons de fête de la bière, pourquoi il faut très très vite visiter l'Europe avant qu'elle finisse enterrée sous une tonne de bombes nucléaires. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à l'oreille, et c'est un petit peu difficile à l'œil aussi, puisqu'il faut bien s'imaginer qu'on est en 1983 en Allemagne, donc tous les chanteurs ont des cols pelle à tarte et des coupes mulets. Néanmoins, c'est quand même une chanson qui est pile dans la thématique, donc je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Geier Sturzflug, Besuchen Sie Europa.
Wenn im Kanale Grande U-Boote vor Anker gehen und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, überm Bazar von Ankara ein Bombenteppich schwebt und aus den Hügeln des Olymps sich eine Pershing 2 erhebt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atomfisch in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben sich zartes Alpenblühen zeigt, dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Wenn aus der Haute Cuisine ein Hexenkessel wird, sich der Koch aus Übersee seine alte Welt flambiert, da wird gelacht und applaudiert, denn selbst der Kellner kriegt einen Tritt. Was bleibt uns außer der Kultur? Wir wünschen guten Appetit, denn dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch steht. 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 Solange es noch steht.
Il y a assez peu de temps, je lisais un article, je pense que c'était dans Medium, enfin, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, puis j'ai cliqué dessus, puis je l'ai lu, puis c'était très intéressant. Un article de divers analystes qui expliquait ce qui se passerait vraisemblablement si Donald Trump appuie sur le bouton, quoi, hein, grosso modo. Qu'est-ce qui se passe? Il est mal luné, il a pas mangé assez de hamburgers le matin, il a lu des fake news qui l'ont mis de mauvais poil, et pouf, là, il appuie sur le bouton et on attaque la Corée du Nord. Donc l'article expliquait, donc c'était des analystes, notamment des analystes de la CIA, des gens qui travaillent dans la géostratégie, etc., qui disaient que le principal problème, entre guillemets, c'est que la Corée du Nord, en fait, n'a pas que des armes nucléaires. C'est-à-dire qu'elle a aussi un arsenal assez monstrueux en termes déjà de bombes conventionnelles, puis de bombes chimiques, d'armes sales, etc. Et qu'avant qu'on puisse écraser le pays sous un déluge de feu atomique, bah, ils auraient le temps, pendant des heures et des heures et des heures, de balancer tout ça dans tous les sens, un petit peu, hein, sur la Chine, la Corée du Sud, etc. Et que rien que ça serait susceptible de faire en fait des millions de morts, puisque bah, mine de rien, une ville comme Séoul, hein, la capitale de la Corée du Sud, n'est pas très loin en fait de la frontière nord-coréenne, et personne n'aurait décemment le temps d'évacuer une métropole de plusieurs millions d'habitants. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que la guerre nucléaire, ce n'est pas très très bien, et qu'on souhaite que ça ne dégénère pas. Alors, évidemment, il y a aussi d'autres articles qui pointent le fait que bah, les Sud-Coréens sont vachement moins inquiets que le reste du monde. Mais en fait, c'est simplement parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, ils vivent avec cette perspective-là depuis, ne serait-ce qu'une perspective d'invasion du Nord ou de conflit avec le Nord depuis toujours, depuis plusieurs générations, depuis la fin des années 50. Donc pour eux, ouais, ça leur fait ni chaud ni froid, et ils savent aussi que tant qu'il n'y a pas d'escalade, on va dire, de la part des partenaires à peu près normaux, la Chine, les États-Unis, bah, il n'y a pas de risque, sauf que bah, pour la première fois, depuis assez longtemps, les États-Unis sont vis-à-vis de la Corée du Nord un partenaire pas du tout normal. Donc on verra bien. On va déjà laisser les Jeux Olympiques d'hiver avec les athlètes nord et sud-coréens présents qui ont l'air de passer des Jeux Olympiques à peu près normaux se dérouler. Et je vous propose qu'on continue à fabriquer notre petite playlist de la fin du monde à emmener dans son bunker de l'apocalypse, avec un groupe honnêtement un peu plus facile à écouter que le précédent, puisque c'est un groupe assez connu, c'est le groupe Oingo Boingo, très connu parce que notamment son leader était Danny Elfman. Danny Elfman, qui est entendu l'auteur du générique des Simpsons, et de rien d'autre. Donc un groupe très très chouette, qui a fait pas mal de chansons avec des thématiques un peu sombres et un peu sinistres. Je vous propose d'en découvrir une, alors un fou l'année 80, hein, faut imaginer que là, vous pouvez pas être plus dans les années 80 que ce que vous allez écouter. Donc je vous propose donc Oingo Boingo avec Just Another Day, qui raconte notamment un rêve d'apocalypse nucléaire avec voilà, tout le temps cette perspective un peu sombre qu'on pouvait avoir avant que le mur tombe, avant la fin de la guerre froide. There's life underground. On the line, when I'm away from home, when I step out. Et voilà, c'était Oingo Boingo avec Just Another Day, une musique qui me donnerait presque envie d'aller en boîte de nuit. Non, pas du tout. Je me rends compte que quand j'ai des invités dans Calvin Ball, je leur demande en début d'émission de me donner leurs recommandations qui n'ont aucun rapport avec le reste de l'émission. Je ne me l'impose pas à moi-même quand je fais une émission tout seul, et ben, c'est pas bien, tu ne devrais pas faire ça, Zalif Alkam, tu devrais toi-même t'imposer de recommander des choses aux gens en début d'émission. Comme nous sommes encore dans le premier tiers de l'émission, je peux le faire. Et alors je ne vais pas vous recommander la série que je suis en train de regarder en ce moment. Tout simplement parce que la série que je suis en train de regarder en ce moment, c'est Gotham. Parce qu'après avoir regardé diverses séries télé aux thématiques un peu dures, j'avais envie d'en regarder une à la thématique complètement stupide. Je savais que Gotham, c'était pas bien. Je pourrais quand même vous recommander dans Gotham l'acteur qui joue le pingouin, parce que je pense que c'est le seul de la série qui a compris qu'il fallait jouer tellement à fond la caisse qu'on dirait un dessin animé, et lui, il en fait des caisses comme j'ai jamais vu personne en faire des caisses, et je trouve ça formidable. Je vais plutôt vous recommander, alors pour le coup je suis en plein dans ma zone de confort, je vais vous recommander un animé. Parce que oui, je regarde des animés si c'est votre premier Calvin Ball. Vous en serez peut-être surpris, si c'est votre 12e, sans doute pas. Je vais vous recommander un animé qui est diffusé en ce moment, qui est le dernier produit du studio Madhouse. Studio Madhouse, formidable studio d'animation japonaise, du moins, avec une grande histoire. Je ne sais pas si aujourd'hui il n'y a plus que des stagiaires et des freelances qui travaillent pour eux, mais en tout cas, en général, ce qui sort de leur studio, c'est toujours très très bien. Je vais donc vous recommander A Place Further Than the Universe, qui est un titre à coucher dehors, qui est probablement là pour masquer un titre japonais encore plus à coucher dehors, mais moi, c'est un animé que j'ai simplement renommé Les Petites Filles qui vont dans l'Antarctique, puisque je crois que là, j'ai résumé l'intégralité du propos. Ce sont quatre jeunes filles qui vont aller dans l'Antarctique. En gros, ça raconte l'histoire de quoi A Place Further Than the Universe. Ça raconte l'histoire d'une fille qui, le jour de ses 15 ans, se rend compte qu'elle n'a jamais rien fait d'intéressant, qu'elle s'était notée dans son carnet, dans son petit journal intime, « Il faut que je fasse quelque chose de ma vie ». C'est pas arrivé. Du coup, elle va décider de faire une fugue, et en faisant une fugue, elle va rencontrer une de ses camarades de classe, un petit peu mystérieuse, un peu une outcast de son lycée. Elles vont, suite à un imbroglio quelconque, se lier d'amitié, et donc l'héroïne va se rendre compte que sa nouvelle amie, en fait, elle a un projet secret depuis quelques années, c'est de partir au pôle sud pour retrouver sa maman, qui est une scientifique qui a disparu là-bas dans une mission. Donc quelques péripéties plus tard, elles vont rencontrer deux autres gamines, donc une jeune idol qui est embarquée dans un programme de plus ou moins de propagande pour aller faire pour aller parler de l'expédition scientifique japonaise au pôle sud, et une sorte de mineure émancipée qui travaille dans la supérette du coin. Et ensemble, elles vont s'allier, elles vont monter le projet de partir en mission dans l'Antarctique. Avec des scientifiques japonais, en fait, avec une mission d'exploration civile destinée à emmener quelques civils en Antarctique pour faire un petit peu la promotion, du coup, de la mission scientifique là-bas. Et voilà, du coup, ça va raconter la préparation de leur voyage, puis leur départ vers du coup, le pôle sud, sachant qu'évidemment, on ne part pas au pôle sud comme ça, il faut de la préparation, il faut de l'entraînement, il y a de la nécessité aussi de trouver des sponsors, d'avoir du matériel, et puis d'être absolument sûr de ce qui va se passer. Il y a aussi la problématique, comme ces jeunes filles ont 15 ans, d'annoncer à leurs parents qu'elles vont partir au pôle sud, d'annoncer à leurs amis qu'elles ne vont pas être là pendant un moment, et voilà, et chaque épisode va raconter une étape de la préparation du voyage. C'est extrêmement intéressant, déjà parce qu'on apprend plein de trucs sur le pôle sud, sur la mission scientifique au Japon, comment on y va, comment elle est organisée, c'est quoi la problématique d'organiser un voyage au pôle sud, ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas un avion qui s'envole et puis qui débarque au pôle sud, et là vous mettez une parka et c'est bon, vous y êtes. Non, il y a vraiment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est extrêmement positif, c'est extrêmement mignon. Tout ce qu'on pourrait redouter dans un animé de cute girls, de cute things, n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fanservice débile, il n'y a pas de gna 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 tout le temps. Le fait est que ce n'est pas le fait qu'elle fasse des choses mignonnes, en fait, qui est intéressant dans cet animé, c'est vraiment l'aspect comment un groupe va se souder, comment chacune va avoir ses motivations pour partir, mine de rien, dans une destination lointaine et mystérieuse. et comment elles vont s'entraider pour y arriver et les conséquences que ça va avoir dans leur vie. Donc c'est extrêmement mignon, c'est très très chouette, je vous le recommande, c'est sur crunchyroll.fr. Il y a déjà 5 ou 6 épisodes qui sont parus et c'est visuellement extrêmement beau. L'animation elle est au poil, c'est génial. Voilà, maintenant qu'on a eu cette dose de bonne humeur et de genkitude, hein, comme on dit chez les otaku, je vous propose de repartir vers la guerre nucléaire avec un classique d'une de mes idoles qui est Boris Vian. J'adore Boris Vian. Il faudra un jour que je vous parle pendant 4 heures d'affilée de Boris Vian, à quel point j'adore Boris Vian et à quel point on le résume un peu trop souvent à l'écume des jours parce qu'on l'a tous lu à l'école, enfin beaucoup de gens l'ont lu à l'école et donc que cette vision de l'œuvre de Boris Vian et 2-3 chansons qu'ils ont peut-être entendues dans l'autoradio de leurs parents. Mais Boris Vian, c'était quelqu'un d'extraordinaire qui est mort très jeune. Peut-être qu'il est mort avant de faire de la merde, je sais pas. En tout cas, tout ce qu'il a fait de son court vivant, c'était extraordinaire. Donc, j'adore Boris Vian et j'adore la carrière musicale de Boris Vian, et notamment une de ses grandes chansons les plus connues, la Java des bombes atomiques, chanson de 1955. Mais c'est pas celle-là dont je vais vous parler, une chanson qui raconte donc, l'histoire d'un savant fou qui crée des bombes atomiques dans son jardin. En pleine montée des périls, en pleine guerre froide, hein. La chanson elle est écrite 3-4 ans après que l'Union soviétique se dote de la bombe atomique, donc ça rigole pas. Et chanson pacifiste aussi, puisque elle part du principe que si on faisait une toute petite bombe atomique pour tuer tous les dirigeants de ce monde, réunis dans un même salon, eh bien on aurait quand même un petit peu la paix. C'est une version étrange que je vais vous passer, c'est la version des Charlots. Oui, les Charlots, les Charlots font l'Espagne, tout ça, le groupe de comiques troupiers des années 60 à 80. Les Charlots, en fait, ils ont quand même eu une lourde et longue carrière musicale qui n'est pas uniquement faite de Paulette, la reine des paupiettes et autres allumeurs de rêves berbères. Enfin voilà, c'est toutes ces chansons un peu nulles des années 60-70. Ils ont une vraie carrière musicale qui commence en tant que musicien du chanteur Antoine, puis qu'ils ont poursuivi jusqu'à la dissolution totale des Charlots dans les années 80. Et ils ont notamment fait un album qui s'appelle Les Charlots chantent Boris Vian, qui est honnêtement un peu inégal, mais qui contient une étonnante reprise de la Java des bombes atomiques, que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors c'est une version du coup de 1969, on est juste après mai 68, et on va dire que dans la folie des arrangements et dans la bizarrerie du ton employé, ça s'entend un petit peu.
Notre oncle fable bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bombe, oh, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.
J'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.
J'y retourne immédiatement.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il est reçu et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui bafouille.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu en mon âme et conscience qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument.
Monument, c'est vraiment une sale gueule sans ce monument. Marqué, il faut bien avoir une sale gueule, c'est pas gueule du tout.
S'il y a des bombes atomiques, c'est bien parce qu'à un moment donné, on les a fabriquées. Que faut-il pour fabriquer une bombe atomique ? Je vous avoue, je n'en sais rien, je n'ai pas beaucoup travaillé le sujet. Je pense qu'il faut un genre de fusée, un corps long, gros, enfin une sorte de missile ou de bombe. Donc il faut du métal, il faut probablement des propulseurs pour que le missile puisse se propulser pour aller quelque part. Je suis très très nul en balistique. J'imagine qu'il faut aussi des explosifs, tout simplement, parce que le matériau radioactif qui est à l'intérieur, il faut bien le faire exploser à un moment donné. Et puis il faut de l'uranium, du moins je pense, ou du plutonium, enfin ces trucs en yom qui font peur et qui font mal quand on les touche. Mais disons de l'uranium, il en faut, et pour avoir de l'uranium, il faut aller en chercher. Et où est-ce qu'on trouve de l'uranium ? Eh bien, j'avoue, je ne sais pas. En Chine, je crois qu'on en trouve. Je sais qu'il y en a en Afrique. Probablement un peu partout. Mais en tout cas, c'est pas facile d'aller chercher de l'uranium. L'uranium, c'est un métal, un minéral, en tout cas, qu'il faut aller fouiller dans des mines où on est dans le noir et où en plus on mine des matériaux radioactifs. Donc c'est terrible, c'est affreux. Et on ne rend jamais assez hommage aux gens finalement qui font ça. Quelqu'un l'a pourtant fait. En 1955, c'est Elton Britt qui a qui est un chanteur de country, un peu underground, un peu rebelle, voilà, qu'on avait à cette époque-là. Ou du moins, disons, un peu canaille, puisque c'était quelqu'un qui avait pas mal de succès, mais il jouait un petit peu sur cette image de « Ah ok, je fais de la country, je suis sympa, mais quand même, je suis un tout petit point la rebelle. » Bon, Elvis Presley n'était pas encore là, hein, donc il a un peu éclipsé la carrière de ces chanteurs de country de cette époque-là. Mais voilà, du coup, en 1955, Elton Britt, du coup, il enregistre Uranium Fever pour parler un petit peu des mines d'uranium et de parler un petit peu de la vie de mineur d'uranium qui, vous en doutez, n'est pas charmante tous les jours. Cette chanson, on la retrouve notamment, sans surprise, sur la bande-son d'un des jeux vidéo Fallout, plus exactement dans Fallout 4. Vous pouvez entendre Uranium Fever à la radio. Et en attendant de l'entendre dans Fallout 4, je vous propose de l'écouter dans Calvin Ball numéro 12. Numéro 11. Donc c'est parti pour l'Uranium Fever d'Elton Britt.
Well, I don't know, but I've been told uranium ore's worth more than gold. So my cad, I bought me a Jeep. I got that bug and I can't sleep.
Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has gone and got me down.
Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed. So I straddled my Jeep and headed down the road. I reckon I drove about 100 miles down a bumpy road out through the wilds. When all of a sudden I bounced a stop at the foot of a mountain, didn't have no top.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Well, I took the Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd find a hunk of rock that'd make it click just like I'd read about Vernon Pick. On the second day, I made the top and I'm telling you, Steve, I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever, it's spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Well, you pack up your things, you head out again into some unknown spot where nobody's been. You reach the spot where your fortune lies. You find it's been staked by 17 other guys. Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit. That bug's done caught me and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land.
Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around.
With a Geiger counter in my hand,
I'm going out to stake me some government land.
Uranium fever has done and got me down.
Peut-être l'ai-je déjà fait dans Calvin Ball, mais je pense que le temps est venu que je vous parle d'une de mes chansons préférées de l'univers entier, de la galaxie, de tous les temps. Cette chanson, c'est Eve of Destruction, une chanson de P.F. Sloan du milieu des années 60. En plein démarrage, enfin, du moins du point de vue américain, de la guerre du Vietnam. La version de P.F. Sloan, c'est pas la version la plus connue. La version la plus connue, c'est celle de Barry McGuire, donc un chanteur qui avait une voix extrêmement grave et dramatique, qui en a fait un tube mondial, et c'est un des cas peut-être les plus anciens dans la pop musique d'effet Streisand. Vous savez, l'effet Streisand, c'est quand vous dites à quelqu'un « Surtout, n'écoutez pas ça, c'est interdit, ce n'est pas bien, si vous le faites, ça va mal se passer pour vous, etc. » Et puis la chanson devient un succès. Eve of Destruction, qui était une chanson qui promettait une fin du monde rapide, sombre et sinistre si on procédait pas très rapidement à une désescalade militaire, un désarmement nucléaire. Chanson pacifiste également, qui disait voilà, ces gamins-là, ils ont pas l'âge de voter, mais on les envoie déjà se faire tuer au Vietnam. La version de Barry McGuire, elle était prise dans les radios publiques, puis les radios conservatrices aux États-Unis. On disait oh, c'est pas bien d'apprendre ça à la jeunesse, n'écoutez pas ce disque. Et évidemment, cette version de la chanson, qui avait déjà été enregistrée par d'autres groupes auparavant, est devenue un succès planétaire. Et c'est peut-être une des chansons les plus reprises de l'histoire des reprises de chansons. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versions de Eve of Destruction. Il y a des parodies de Eve of Destruction, il y a des versions alternatives, il y a plein de groupes qui ont changé les paroles aussi pour adapter ce ton mélodramatique à d'autres situations. Il y a eu des versions romantiques, par exemple, de Eve of Destruction, où au lieu de raconter la fin du monde, on racontait une rupture amoureuse. Il y a eu des bonnes versions, il y a eu des mauvaises versions. Ça a été chanté dans plein de langues. Mais je pense que rien ne surpasse la version de Barry McGuire, parce que Barry McGuire, il avait une attitude, il avait une voix, il avait quelque chose qui incarnait parfaitement cette chanson. Voilà, bref, j'adore Eve of Destruction, je pourrais écouter cette chanson en boucle. Je pense que si on me disait « Demain, t'as plus le droit qu'à 10 chansons dans ta vie, Eve of Destruction », elle serait automatiquement sur ces 10 chansons. Voilà, ça ferait partie des chansons que j'écouterai pour toujours. C'est une chanson qu'on utilise aussi énormément pour illustrer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une chanson qui marche bien pour illustrer n'importe quoi de dramatique, pour illustrer un bombardement, pour illustrer une scène triste, pour illustrer quelque chose d'intense. Vous pouvez toujours mettre Eve of Destruction, ça marche toujours dès que vous voulez mettre de l'intensité. Alors évidemment, il y a eu aussi des versions complètement what the fuck de Eve of Destruction. Bien entendu qu'il y a des versions nightcore, de toute façon il y a des versions nightcore de tout. Vous avez d'improbables versions reggae, des versions ska, vous avez des versions, une version française, vous avez des versions espagnoles. J'imagine que quelque part il doit bien y avoir une cover en japonais de Eve of Destruction. Mais la version que je vais vous montrer, que je vais vous faire écouter aujourd'hui, c'est une des versions les plus bizarres du monde parce que elle enlève complètement le côté dramatique en fait de Eve of Destruction pour en faire un truc un peu dansant et joyeux dans le sens où on pouvait l'entendre en 1981. Mais je trouve qu'au final, ça renforce un petit peu son côté angoissant, puisque pour moi, les années 80, c'est une décennie angoissante. Il y a plein de gens qui sont nostalgiques des années 80. Moi, elles ne me manquent pas. Je ne les ai pas connues longtemps, mais elles ne manquent pas. Je trouve que c'était une décennie d'angoisse. Même graphiquement, c'était l'angoisse, les années 80. Trop de fluo, trop de néon, trop de... Les triangles. Il y avait des triangles partout dans les logos. Les triangles, ça fait peur. Voilà, donc je vous propose qu'on s'écoute une version de Eve of Destruction, du coup, de 1981, par un groupe canadien qui s'appelle Bangkok, sur lequel j'ai pas trouvé énormément d'infos, mais qui, en essayant de faire à peu près le contraire de la chanson de la version de Barry McGuire, arrive à faire un truc qui, à mon sens, est encore plus angoissant. Voilà, ça va assez vite. C'est Eve of Destruction par Bangkok.
Over and over again, my friend. You don't believe we're all.
C'était donc Bangkok avec sa version de Eve of Destruction, et je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai pas peur de l'affirmer, nous allons rester au cœur des années 80 pour la prochaine chanson. On est toujours dans notre thématique des chansons liées à la fin du monde et à l'apocalypse nucléaire, avec une chanson que vous connaissez sans doute pas, parce que c'est, on va dire honnêtement, improbable. C'est statistiquement improbable, parce que je suis sûr que j'ai de fins musicologues dans mon auditoire qui vont me dire « Mais si, je connais très bien le... » Mais en fait, c'est assez improbable que vous connaissiez la carrière des Buggles en dehors de Video Kill de Radio Star. Video Kill de Radio Star, qui est encore une fois une chanson tellement années 80 que je suis devenu fluo avec un jogging le coq sportif en le disant. Les Buggles, ils ont fait plein d'autres trucs que moi-même je ne connais pas très bien, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais ils ont fait notamment une chanson qui s'appelle Clean Clean, une chanson qu'on peut interpréter de plein de manières différentes, mais qui est souvent listée comme, qui est souvent listée comme une chanson évoquant la fin du monde et ce qui se passerait si demain il y avait un conflit qui s'ouvrait et que, sur un malentendu, ce conflit devenait nucléaire. Alors les Buggles, ils ont toujours des paroles qui sont pas forcément limpides, hein, c'est pas des paroles explicites, mais là ça parle quand même du coup de quelqu'un qui part pour un champ de bataille, qui tout d'un coup se rend compte qu'absolument tout sur le champ de bataille est détruit, qui a même du mal à trouver un véhicule en état de marche et qui arpente en gros les ruines de ce qui semble avoir été un bombardement. Et où il dit que dans le premier jour de la guerre, il y a déjà eu 1 million de morts, donc voilà. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. On peut aussi, là aussi, je pense qu'on peut tout interpréter comme une chanson de rupture amoureuse, mais notamment quand on met des petits synthés électroniques dessus. Mais là, à mon avis, c'est quand même une chanson qui est sinistre dans un univers, encore une fois, qui l'était. Hein. Je considère que peu de décennies ont été aussi sinistres que les années 80, parce que... Mais c'est quand même cette décennie où on faisait la fête pour oublier que Reagan était président. Hein, donc on dira peut-être ça des années 2010 après, mais je pense qu'il y avait... On n'avait pas encore inventé le cynisme, en fait. Du coup, on n'avait que le désespoir. Et le désespoir, on l'a traduit sous forme de films de Spielberg et de gros néons fluo et de cyberpunk. Et c'est pas pour rien que le cyberpunk s'est né dans ces moments-là et que ça a pris son envol dans ces moments-là. C'est parce qu'on était triste et angoissé. Et je pense qu'une chanson comme Clean Clean des Buggles traduit parfaitement ce côté je fais la fête et je sautille partout parce qu'en fait, je suis mort à l'intérieur. Voilà, c'était mon rant sur les années 80, c'était pas prévu, c'était comme ça, mais je vais décider de le garder. Réfléchissez-y pendant que je vous passe le clean clean des Buggles.
Clean, clean.
Quittons un petit peu ce monde de synthétiseurs et de triangles inquiétants pour revenir en France. La France qui est quand même une grande tradition de la chanson antimilitariste, de la chanson antinucléaire, de la chanson contre l'ordre, tout ça. Enfin, nous, à partir de 68, on s'est lâché. Hein. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous écoutez Calvin Ball et que vous avez allez, entre 15 et 35 ans, vous avez surtout connu, c'est là, statistiquement, je pense, la plupart des gens qui m'écoutent ont entre 15 et 35 ans, peut-être plus 35 que 15, mais vous avez davantage, à mon avis, connu le rock contestataire, les frères Misère, les Mano Solo, les Parabellum, enfin voilà, la Mano Negra, tous ces trucs de Rastaquouère hein, que j'adore aussi, moi, mais qui s'éloignent un petit peu, on va dire, du courant folk pour aller plus vers un courant rock. Hein. On va essayer de casser la société avec des saxophones de ska et du rock alternatif et des bonnets péruviens plutôt qu'essayer de la casser avec une guitare folk à la Bob Dylan. Bon. Donc ce n'est pas étonnant qu'un chanteur comme Castellémis soit un petit peu aujourd'hui tombé dans l'oubli, lui-même ayant d'ailleurs décidé de tomber dans l'oubli à la fin des années 80 en accrochant sa carrière, puisqu'il ne se reconnaissait plus du tout dans la scène musicale. Donc Castellémis, il vient du courant folk en fait, vraiment le courant folk pop rock qu'on a eu un petit peu avec des groupes comme Ange par exemple. Donc le côté un peu plus psychédélico-folco, folklo-lyriciste, on va dire, du versant contestataire de la musique, sachant que le reste des succès populaires se partageait plutôt du coup entre chansons françaises à la Renault et groupes contestataires voilà, à la Mano Negra. Bon, Castellémis, du coup, il a été un petit peu oublié, pourtant il avait des succès dans les années 70-80, notamment avec son répertoire extrêmement énervé, chansons très militantes, antimilitaristes, anti-flics et anti-nucléaires. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque à savoir que Castellémis, lui, s'est intéressé aussi à la possibilité que l'Holocauste nucléaire vienne non pas d'un militaire fou qui appuierait sur un bouton de manière un petit peu cavalière, mais aussi simplement d'un accident, hein, d'une erreur, on va dire, d'un manque de vigilance, d'un patatras dans une centrale nucléaire. Donc il a fait une chanson qui s'appelle « Les centrales » en 1982, donc on est 4 ans avant Tchernobyl. Des incidents dans des centrales nucléaires, il n'y en a pas encore eu beaucoup à cette époque-là. Et Castellémis s'y pose la question, un avion ça peut tomber à la suite d'une erreur, un pont ça peut s'écrouler parce qu'un ingénieur a mal fait son travail, mais les centrales, pourquoi on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y aura jamais de problème? Bon bah il s'avère que quelques années après cette chanson, un problème, il y en a eu un petit, moi j'ai grandi dans le nord-est, pile là où on nous dirait qu'il n'y aurait pas de problème, aujourd'hui les sangliers ils font 4 mètres de haut, si vous mangez un champignon vous pétez du radium, et j'ai probablement bu du lait le plus empoisonné du monde, ce qui explique aujourd'hui que j'ai 4 zizis, 7 yeux et 12 000 cancers potentiels. Donc voilà. Merci à Castellémis de nous avoir prévenus, dommage que nous ne l'ayons pas écouté, je vous propose d'écouter du coup ce tube de 1982 qui s'appelle Les Centrales. Nota bene. Inutile de glisser dans mes DM pour me demander si j'ai vraiment 4 zizi, vous n'aurez pas la réponse.
Un train ça peut dérailler et par accident. Un tunnel peut s'effondrer par accident. Un avion ça peut tomber par accident. Une fusée ça peut foirer, ça peut arriver. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, biscotte lit. Un câble, ça peut casser et par accident, une voiture peut déraper. Pas aux centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit, biscotte lit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, biscotte lit. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé. un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
Après ce moment un petit peu énervé de Castellémis, je vous propose de poser un petit peu nos cocoros et de nous apprêter à sortir les mouchoirs avec une version... On va partir en Russie. On n'est pas assez parti en Russie. On parle d'armes nucléaires depuis tout à l'heure et moi quand j'étais gamin, le danger nucléaire, c'était les Russes, c'était les Soviétiques, c'était les méchants Soviétiques qui allaient franchir le mur, qui allaient mettre les chars à Paris, qui allaient s'allier avec François Mitterrand et qui allaient renverser la démocratie et la liberté. Bon, il s'avère que j'ai fait des études d'histoire et j'ai pas mal étudié, pour plaisir, hein, c'est jamais dans aucun programme que j'ai étudié, j'ai pas mal étudié les rapports culturels entre les deux blocs, puisque contrairement à ce qu'on pouvait penser, contrairement voire même à ce qu'on m'apprenait quand j'étais à l'école, il y avait certes une forte tension politique entre l'Est et l'Ouest, il y a eu des conflits ouverts, pas ouverts, enfin, des guerres de mots, des vrais risques d'incidents nucléaires graves, voire de fin du monde, hein, comme la crise des missiles de Cuba. Mais parallèlement à ça, existait tout de même une circulation de la culture, une circulation du savoir, une circulation de la science entre les deux blocs. Moi, je me souviens très bien d'un prof d'histoire qui m'avait dit que la musique occidentale, la musique, on va dire, des démocraties, n'existait pas en Union soviétique. C'est un très bon exemple du fait que parfois on a des a priori et qu'on les plaque complètement sur notre perception du monde qui est influencée notamment par la pop culture, par les films, par les médias ou simplement par des clichés. Bon, il s'avère que c'est vrai, les Russes vivaient dans des dictatures, il n'y avait pas de liberté, il y avait une censure très forte qui s'exerçait, mais j'ai découvert en creusant, et c'est pas des informations cachées, que les gens en Russie avaient tout à fait accès à la musique occidentale, par exemple, ou à la littérature occidentale. Ils n'avaient pas accès à tout, il y avait une partie des choses qui ne passaient pas la censure, et en tout état de cause, la culture était un monopole d'État. Mais, par exemple, un groupe comme les Doors avait des succès, enfin, rencontrait un succès notable en Union soviétique, en Russie particulièrement. La musique, en fait, là-bas, elle était importée par une agence qui s'appelait Melodia, qui était en fait la seule maison de disques plus ou moins autorisée par l'État, mais qui était une énorme structure, en fait, Melodia, et c'était notamment eux qui étaient chargés d'importer la musique étrangère, d'expurger des disques tout ce qui pouvait apparaître comme un message de dissidence ou qui pouvait poser problème, mais malgré tout, ça laissait quand même encore pas mal de choses. C'est aussi le cas des protest songs, des chansons antimilitaristes, des chansons appelant au désarmement nucléaire. Elles existaient en Russie, elles étaient connues. Alors évidemment, il y avait aussi une... Et il y a toujours, d'ailleurs, une forte scène locale, hein, qui très forte, avec des interprètes très forts, et voilà. Mais il n'empêche que la culture circulait entre les deux blocs. Peut-être pas de manière fluide, mais elle circulait. C'est le cas, par exemple, d'une chanson comme « Where All the Flowers Gone », composée et chantée par Pete Seeger en 1955, mais rendue mondialement célèbre par le Kingston Trio en 1962, qui en a fait un hymne pacifiste universel, mais un hymne pacifiste extrêmement sombre et déprimant, un hymne pacifiste qui pensait plutôt qu'on allait vers le mauvais côté, puisqu'il disait justement dans cette période où on commençait à parler de terreur nucléaire et de guerre froide pouvant aller à son paroxysme et pouvant aller jusqu'à la destruction de l'humanité, c'est quelqu'un qui se pose cette question, mais où personne, est-ce qu'ils comprendront jamais, voilà, là les enfants sont morts, les fleurs sont mortes, les oiseaux sont partis, etc. Et ils ne comprendront jamais, qu'on va aller vers l'abîme. Donc voilà, une chanson que j'aime beaucoup également, hein, Where All the Flowers Gone, et qui elle aussi a des centaines et des centaines de versions différentes. Je pense notamment à une version très connue de Marlène Dietrich et une autre un petit peu moins connue de Nana Mouskouri, No Comment. Mais bref, la version de Pete Seeger est sans doute pas la plus connue, mais il faut savoir que Pete Seeger, il s'est inspiré d'une mélodie russe, en fait, pour composer cette chanson. Une mélodie russe des années 30, du folklore cosaque. Et en fait, du coup, il y avait une forme de justice au fait que Where All the Flowers Gone finisse par réavoir des versions russes, donc qui reprennent la version de Pete Seeger. Et c'est notamment le cas avec la version de Zana Vladimirovna Bichevskaya, qui est une des très 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 grandes dames de la chanson folk soviétique, puis russe, puisqu'elle a continué sa carrière dans les années 90, et à ma connaissance, elle la continue toujours. Donc je vous propose d'écouter, sans plus attendre, une version qui date des années 70, qui est donc sortie tout à fait officiellement, donc la reprise d'un hymne américain antimilitariste. Je ne vous ferai pas l'offense de prononcer le titre russe, on va simplement dire que c'est la version russe de Where Are All the Flowers Gone par Zana Bichevskaya.
Где все маки, их собрали девушки летним днем. Ты скажи мне, где цветы, где все маки собрали девушки, собрали летним днем. Где все девушки, скажи, их не вижу, провожать они пошли в путь парней. Где все девушки, скажи, их не вижу, прощаются они с парнями летним днем. Ты скажи мне, парни, где, где те парни? Не пришли они домой летним днем? Ну а где они теперь, эти парни? Погибли на войне, лежат в земле. Где все маки, на могилах у парней все цветы? Да, я знаю, где цветы, где все маки, горят, горят они, как вечные огни.
Et voilà, nous sommes quasiment à la fin de l'émission. J'espère que je vous ai bien déprimé avec mes histoires d'années 80, d'apocalypse nucléaire et de Fallout 4. Fallout 4 est un jeu déprimant à bien des aspects, mais je ne suis pas là pour en parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit en début d'émission, cette émission, en fait, elle remplace une émission qui a techniquement pas marché. C'est-à-dire que j'étais content de ce que les gens ont dit dedans, mais... d'ailleurs, j'étais pas content. Pour les gens qui y ont assisté, j'étais pas content de ma façon d'animer. J'étais fatigué après une grosse semaine et j'ai animé l'émission de manière un peu agressive. Donc, je pense que quand on la refera, cette émission qui s'appellera Souvenirs de l'Uncanny Valley, on la refera. Je la referai de manière beaucoup plus détendue et beaucoup plus calme. J'ai des vacances bientôt, du coup, je vais pouvoir le faire un petit peu tranquillement. Et comme je le disais en début d'émission, comme vous le savez, dans Calvin Ball, on enregistre. Des émissions dont le thème est tiré par, est généré par tirage au sort. Bon, à la fin, on avait tiré plein de papiers, et j'avoue, j'ai pas noté exactement ce dont il était question. Et j'ai peur de me mélanger les pinceaux, et je pense que c'était un signe du destin qu'il fallait que je refasse un tirage. Donc voilà, je vais tirer les thèmes des émissions 12 et 13 maintenant, en direct devant vous, et je vous promets que je ne vais pas tricher. D'ailleurs, pour faire un petit débrief, Cachou avait totalement triché, d'ailleurs, hein, sur les... C'est elle qui avait fait le tirage au sort, elle était à côté de moi, elle avait complètement triché, elle avait tiré des papiers un petit peu comme ça, la rangée, et ça avait quand même donné des résultats bizarres néanmoins, donc comme quoi, des fois, on essaye de filouter le système, ça ne marche pas, enfin bref. Du coup, je vais refaire un tirage. On avait échappé au thème de ciné. Tout ce que je me souviens, c'est que je n'avais aucun film bizarre à regarder pour la prochaine fois, donc je ne sais pas si ça va donner la même chose. Donc je vais le faire devant vous, je vais commencer déjà par lancer un dé pour l'émission qui sera sans doute l'émission 12. Donc un dé 6, hein, c'est le fameux dé du destin que je lance, et qui me donne un 4. Un 4, du coup, je vais tirer 4 papiers dans mon chapeau qui serviront du coup de thème pour la prochaine émission de Calvin Ball. Donc voilà, un papier, deux papiers, trois papiers, frouch frouch, toujours un merveilleux bruit d'ASMR, un quatrième truc. Je viens de tirer un papier blanc, hein, je vous fais le making-of en même temps. Eh bien, le premier papier est évidemment, on est reparti sur le fait que Calvin Ball est une émission cinéma. Ce sera un disque dur extrême, donc je vais tirer des films au hasard dans ma collection personnelle, on va dire, et je vais demander à des chroniqueurs de les regarder, ça va être chambé. Mais cette émission, elle parlera aussi... Oh là là, c'est merveilleux, ce sera une émission full regardage de trucs. Ce sera aussi un épisode 1 marathon, lol. Un vieux thème de Calvin Ball qui n'est pas tombé depuis le numéro 3, je crois. Ça ne va pas être tombé depuis le numéro 3 ou 4. Depuis le numéro 2, tiens, je viens de vérifier, c'est depuis Rocabanane, en fait. Donc ça fait des mois que ce thème n'est pas tombé. Donc on regardera des épisodes 1 au hasard, et on les jugera, et on dira si on a envie de continuer à regarder les trucs. Ensuite, tiens, c'est un thème musical, du coup, dans l'émission 12. Japanese Vintage Music. Donc, ça composera la bande son de l'émission. Musique japonaise vintage, comme son nom l'indique. C'est sans doute moi qui ferai la playlist. Et enfin, Visual Nobel. Visual Nobel, donc on testera également. Ça va être très très chargé comme programme. Ça va être méga chargé. Je pense qu'on va la faire fin mars, hein, plutôt celle-là. Donc on testera des Visual Novel un petit peu au hasard. Le hasard étant moi. Donc voilà pour l'émission 12, une émission à 4 thèmes. Je garde tout ça de côté en mémoire. Ça va être chouette à faire. Ça va être long à préparer, mais ça va être chouette à faire. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Je rebrasse un petit peu toute ma paperasse. Et du coup, frouch, 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 on va lancer un dé pour l'autre émission que nous avons en tirage au sort. 5. Ok, donc le destin a décidé d'être extrêmement pénible avec moi, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc là, on va tirer maintenant du coup 5 papiers pour l'émission qui sera du coup la 12 ou la 13, hein, je verrai comment je m'organiserai en fonction. Le premier est encore un papier blanc, donc oui, il faut que j'enlève totalement, hein, ces papiers blancs qui sont dans le face du hasard. Hop. Voilà, 1, 2, 3... 4, 5. Alors, le premier, c'est... Alors, oui, alors, je ne vous ai pas dit, mais... Il y a des thèmes qui ont été ajoutés pendant l'émission maudite. Il y en a notamment un qui s'appelle « Allô Calvin ». Je pense que c'est à Framboise qu'on doit ce thème, donc merci Framboise. Allô Calvin, ce sera du coup un thème musical où nous passerons des musiques d'ascenseur et des musiques d'attente. Donc ce que nous pouvons qualifier de musique d'attente. Voilà, c'est génial. J'avais vachement envie de faire ça, n'y voyez aucune ironie. Ensuite, deuxième thème qui va sortir, c'est émission spéciale Acide. Donc Acide, ce sera une émission spéciale, donc un hors-série que je vais consacrer à de la méchanceté, donc on se moquera de choses. J'essaierai de trouver des invités qui ont des choses méchantes à dire sur des choses, et on essaiera d'être méchant mais constructif. Donc voilà, ça je le mets de côté, donc on aura bien une thématique acide, mais ça ne me dit pas quel est le deuxième thème de mon émission. Ce sera musique africaine, donc encore un thème musical, donc j'espère que ce ne sera pas que des thèmes musicaux. Donc on aura de la musique d'attente et de la musique africaine, je ne mélangerai pas les deux, je pense qu'on alternera. Ensuite, j'ai la comédie de tes rêves qui sort sans arrêt, donc je pense que le papier est trop grand, je devrais refaire tous les papiers et les mettre de la même taille, mais c'est pas grave, donc nous parlerons de cinéma dans cette émission. Quatrième thème, nous aurons un « Ça m'obsède et personne ne connaît », Alors ça, c'est un thème qu'on a enregistré, enfin, qu'on a ajouté pendant l'émission maudite. Donc c'est, je vais demander à chaque chroniqueur de me parler d'un truc qu'il adore profondément, un truc qui le passionne, mais que absolument personne ne connaît à sa juste valeur. Attendez-vous à m'entendre parler de la série Atelier Iris, enfin Atelier pendant longtemps. Et le dernier thème, c'est tiens, un thème qui n'est jamais tombé, c'est Rome arrangée. Rome arrangée, nous allons tester. Alors c'est le même principe que Comédie de TRF, c'est-à-dire on fait un truc au hasard, sauf que là ce sera des jeux vidéo rétro que nous allons tester au hasard et sur lesquels nous allons faire des retours. Voilà, donc ça c'est bien. Je pense que du coup ça va être chouette, ça va être une émission où je vais pouvoir avoir plein de personnes différentes. Plus une émission spéciale. En fait, ça me fait de quoi m'occuper pendant toute la fin février et pendant tout le mois de mars, donc c'est assez cool. Voilà, je vais arrêter de blablater. Je pense qu'on en a fini pour ce Calvin Ball, où je vous ai parlé du coup pendant une heure de musique de guerre nucléaire et où j'ai refait un petit tirage au sort pour les prochaines émissions et essayer d'effacer la chétanerie qui était cette émission numéro 10. Comme vous le savez, j'ai un compte Twitter qui s'appelle @calvinballfm, j'ai une page Facebook qui s'appelle Calvin Ball Radio, où je mets plein d'infos sur les émissions et sur les spin-off d'émissions, puisque comme vous le savez, une fois par mois on se voit pour parler de jeux vidéo notamment, et puis de temps en temps on se voit pour parler d'animation japonaise. En attendant, n'hésitez pas à continuer à mettre des étoiles sur iTunes, 5 si possible, et un gentil commentaire. En vrai, on s'en fiche un peu d'iTunes, c'est pas tellement important que vous me montriez votre amour comme ça, c'est simplement important parce que ça me fait remonter dans l'algorithme d'iTunes. Ça, vous pouvez le faire sur Podcast Addict aussi, hein, vous pouvez aller mettre des étoiles sur Podcast Addict pour arriver dans les systèmes de recommandation de Podcast Addict, etc. etc. L'objectif étant qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent, pour qu'on ait de plus en plus de retours, et puis pour que, voilà, si possible, je le demande modestement, Calvin Ball fasse plaisir à de plus en plus de gens pendant leur jogging et pendant les transports. Voilà, je vous fais sur ce plein de bisous et on va se quitter avec une dernière chanson. La playlist de cette fois-ci était plutôt sombre. Mais pourquoi ne pas prendre son parti de la fin du monde et faire la fête sur les ruines ? C'est ce que je vous propose en nous quittant avec un morceau de Fishbone, donc un groupe de funk rock énervé américain qui exerce depuis, je crois, à la fin des années 70, qui, dans un de ses tout premiers EP, nous avait livré un formidable party at Ground Zero, donc faire la fête Ground Zero sur les ruines de la fin du monde. Je vous propose qu'on se quitte là-dessus et qu'on se retrouve du coup dans quelques semaines. Comme je l'ai dit, je vais prendre des petites vacances, donc je ne sais pas exactement quand. Mais allez, maximum, je pense, vers le 20-25 février pour la prochaine émission de Calvin Ball. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec Fishbone, party at Ground Zero.
Just watch, and I heard just a cry. colors are gold and champions will be in league. The race they got is from, then I know what they've done. Say they just won, and I know that I cry. Are you at ground zero? Every movie starring you. And the world will turn to stone with these flippers too. Are at ground zero? Every movie starring you. And the world will turn to stone with these flippers too.
Whack-a-doo, 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 whack-a-doo.
Are at ground zero? Every movie starring you.